Alors, on poursuit donc le descriptif de vos activités. En définitive, ça demande quand même un certain nombre de savoir-faire, c'est bon, si ce n'est des compétences hautement technologiques. Vous avez parlé du matériel. Comment vous pourriez les décrire? En gros, c'est quand même ouvert à des personnes, je dirais, sans formation préalable, sans acquis, et qui ont simplement besoin, je dirais, de retrouver le chemin d'un emploi.
Tout à fait. On a eu des exemples. Par exemple, un premier, tout au début, un tigiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était condamné à 120 heures de travail d'intérêt général, qui les a fait avec nous. Et puis, ça lui a plu. Nous, on voyait que son comportement évoluait. On l'a pris en contrat d'un an. Il est parti faire quelques formations. Maintenant, il est chauffagiste en CDI.
Et donc, il a trouvé un emploi fixe, qualifié pour le coup.
Qualifié, puisqu'il a suivi une formation. Il était très fier de nous dire, je donnais des coups de poing en soirée. Maintenant, ça y est, je suis stabilisé, je suis en emploi. Et on avait, juste avant, un réfugié sénégalais. Lui, il voulait faire de la cuisine. Or, nous, on fait de l'espace vert. On l'a mis en stage chez un ami restaurateur. Il a compris ce que c'était que faire de la cuisine en France et dans un restaurant. Et là, il continue dans une autre entreprise d'insertion, la Table de Cana, qui est bien connue aussi, et qui continue de l'encadrer et de le former sur la technique spécifique de cuisine.
Donc, du coup, je vais dire, bon, c'est une raison d'être de Sentinelle de Rivière, mais c'est une raison de fierté, je dirais, de la part de ceux qui ont tenu cette structure, bon, à bout de bras, j'imagine, pendant des années, là, d'avoir ces parcours de réussite engendrés par...
C'est un petit peu le but d'origine aussi, oui. C'est que l'on puisse faire, puisque toutes les collectivités se sont liées à nous, nous ont soutenus, c'est de pouvoir rendre ce service non seulement environnemental, mais surtout sociétal.
Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises les soutiens des collectivités dont vous bénéficiez, donc la métropole de Montpellier, le département de l'Hérault. Vous pouvez en citer d'autres, parce qu'autour de vous, il y a d'autres entités de statuts différents qui vous accompagnent.
Ce qui nous aide, par exemple, l'ERDI, France Active ERDI, qui est un groupement qui aide à financer, qui nous a accordé un prêt à taux zéro de 15 000 euros. Quand on n'a pas de trésorerie au début, quand on attend que les subventions arrivent...
Un amorçage.
amorçage, voilà, ça nous donne quand même de l'air. Ensuite, on a eu notre Banque Populaire du Sud qui a pris le relais en attendant que les subventions arrivent aussi. Donc, ensuite, on a eu différents mécènes, en quelque sorte, puisqu'on a eu le MHR, le club de rugby, via sa fondation, qui était intéressé par nos actions. On a eu le Crédit Coopératif aussi, qui nous a honoré d'un prix d'inspiration, puisqu'ils sont vraiment dans la coopérative. On a eu la Fondation Yves Rocher, puisqu'ils ont un concours Terre de Femmes. Là, on va voir la CRES, et la Maïf, qui nous a aidés aussi, puisqu'on continue de faire de la sensibilisation pour les scolaires.
Ah oui. Alors, comment ça se passe, cette sensibilisation? Quelle forme ça prend?
Alors, on appelle ça des éco-balades. On le faisait avant avec des volontaires en service civique, dont la MLJ aussi nous a fourni des volontaires en service civique.
La mission locale jeune.
Mission locale des jeunes. Donc maintenant, bon, je le fais sans eux, mais avec des groupes, des établissements scolaires qui ont l'habitude. C'est-à-dire qu'on va dans l'établissement, on a des gants et des pinces, puisque grâce à tous ces mécènes, on a pu acheter ce matériel-là. Et on part de l'établissement lui-même. On veut que les jeunes s'approprient leur établissement, les abords, le parc où ils vont se promener ou déjeuner à midi. Et surtout qu'ils montrent aux passants, aux riverains, que c'est eux qui entretiennent leur lieu de vie.
Qui se l'approprient en quelque sorte.
Exactement. Hein. Et qu'après, ils puissent dire à leurs copains, non, tu ne vas pas jeter ton papier par terre parce que moi, je l'ai ramassé avant.
Et alors, ça fonctionne plutôt bien, là, je veux dire, cette prise de conscience et le passage de relais vers leurs camarades.
C'est surtout le travail des professeurs des écoles qui est fabuleux. Parce que ce sont
ils
vraiment
préparent le terrain, j'imagine.
Tout à fait. Avant, il y a des projets transverses. Et quand on discute avec les petits, ils savent déjà ce que c'est que la pollution, les oiseaux qui avalent, des sacs plastiques en pensant que c'est des méduses. Enfin, ils sont vraiment très sensibilisés.
Bon, ça donne de l'espoir, parce que chacun sait, bon, les auditeurs et les auditrices le savent, quels sont les enjeux de prise en compte de l'environnement et de la protection de la biodiversité.
En fait, c'est pas faire porter sur les petits la charge d'en parler à leurs parents.
Ouais.
C'est juste déjà de lutter contre l'éco-anxiété en leur disant, voyez, vous participez, c'est super ce que vous faites.
Oui, il y a une approche positive et mobilisatrice de ce type d'action. Alors, vous l'avez évoqué, et c'est la raison pour laquelle... Sur les conseils de mon interlocutrice à la Chambre régionale de l'économie solidaire, je vous ai invité. Vous avez eu, il y a peu, un prix. Donc, chaque année, il y a un mois de l'économie sociale et solidaire, nationale. ESS France attribue des prix de l'économie sociale et solidaire déclinés en région. Et cette année, le lauréat régional Occitanie, c'est Sentinelle de Rivière. Alors pourquoi, donc, dites-nous, oubliez toute modestie et dites-nous pourquoi, à votre avis.
En fait, on monte au créneau, on voudrait vraiment prouver, et donc pour ça il nous faut de la visibilité, que d'autres structures, appuyées par des appels d'offres de marché public lancés par des collectivités, peuvent non seulement s'attaquer à la pollution des rivières, mais il y a aussi les décharges enfouies. Jusqu'à la fin des années 70, il n'y avait pas de déchetterie. Donc toutes les communes ont une décharge enfouie dans leur terrain.
Et alors, les Montpellierains connaissent peut-être la fameuse décharge du Tot, qui a été l'objet de polémiques, de débats publics, avant qu'elle prenne fin, mais ouais. Elle est quand même là, toujours.
Elle est là, et il y en a partout, et de par l'érosion, de façon, elles réapparaissent, ou par infiltration, elles viennent polluer les nappes phréatiques. Donc là, ce sont des énormes bombes à retardement auxquelles il faudrait s'attaquer, qui peuvent ouvrir à des emplois qui sont gratifiant, parce que ça n'a rien de dégradant que d'aller rendre propre un endroit.
C'est une contribution au bien commun, on peut le dire comme ça.
Et puis c'est tellement beau de voir qu'on prend des photos avant, après,
oui.
Et c'est fabuleux.
Ah, vous le faites, oui.
Ah oui, là c'est effectif. Plus que de peser, c'est vraiment... Et puis il y a aussi les dépôts sauvages. Et là, vous en voyez partout, des dépôts sauvages.
Bien sûr.
Donc montrer l'exemple, et on sait qu'un endroit qui a été nettoyé, mais il va rester propre. Moi, j'ai des exemples.
Ah oui, il n'y a pas, de dégradation postérieure à votre intervention.
Il y a des endroits, oui. Mais de plus en plus, on voit que les endroits que l'on a rendus propres sont respectés. Ça ne veut pas dire que ça ne se déclare pas.
Donc, sans faire quelque chose d'exceptionnel, il y a une espèce de maturation aussi, ou aussi d'appropriation collective de ce résultat positif, et de considérer que c'est un acquis qu'il faut sauvegarder. Quoi.
Exactement. Et cette visibilité rendue par ce prix, c'est surtout de pouvoir montrer qu'un modèle économique comme le nôtre, c'est-à-dire qui ne vit pas de subventions, c'est vrai qu'au départ, il y en a eu, mais maintenant, on a une activité économique, puisqu'on a été retenu par des appels d'offres, il y a la métropole, mais il y a aussi le PTBL.
Ça veut dire une mise en concurrence avec des structures diverses et variées, y compris des entreprises de statut classique, je dirais.
Voilà. Avec la différence que nous, puisqu'on n'a pas la pression de la productivité, on fait du travail très minutieux.
C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a un soin particulier.
Mais on va essayer de ramasser la moindre bille de polystyrène. On ne va pas y arriver. Mais le moindre petit morceau de polystyrène.
Donc ça prend tellement du soin, ça prend du temps.
Du temps.
Voilà.
Du temps, mais on le prend sur nous.
Il n'y a pas l'œil du compteur, du temps passé, comme on peut l'avoir dans une entreprise plus soumise, comme vous l'êtes, aux impératifs de productivité, de rentabilité.
C'est l'avantage. Et nos donneurs d'ordre attendent de nous, justement, ce travail minutieux que d'autres n'ont pas le temps de faire. Et pourtant, qui s'accumule. Ça faisait des années que dans les berges, il y avait ce qu'on appelle des lingettes, de vieux déchets enfouis qu'on arrive à retirer maintenant, et on voit la différence.
L'état de la rivière s'est amélioré au fil des années.
Voilà.
Vous êtes pour quelque chose.
En partie, parce qu'il
y a d'autres mesures.
Exactement, plus global
sur l'hydrographie du bassin versant du Lez. Oui.
Essayer de réparer un petit peu ce qui a été abandonné jusqu'à présent, ça on peut prendre le temps de le faire, oui.
Alors je l'ai évoqué, donc il y a ce mois de l'économie sociale et solidaire qui a commencé il y a quelques temps. C'est une espèce de vitrine de l'économie sociale et solidaire. Beaucoup d'événements, il y en avait 200. En Occitanie. Alors, j'en signale un qui n'est pas encore pour tout de suite. Donc, c'est un débat partager les terres agricoles proposé par l'association Terres de Liens. Ce débat a lieu le 4 décembre à 18h30 au café associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs à Montpellier. On peut trouver les informations sur le site moi, avec un S bien sûr, -e2s.org. Je vous remercie de votre contribution
à
notre émission. Au revoir, madame.
Au revoir.